France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Masha Merrill, que nous avons aimé d'abord à l'écran avec Buñuel, Godard et les autres, puis au théâtre, où elle est actuellement dans Sorcières, sur des textes de Marguerite Duras et des musiques de Michel Legrand, que nous évoquerons bien sûr longuement. Masha Merrill, ce n'est pas une vie, ce sont mille vies, car elle publie également un roman, Vania, Vassia et la fille de Vassia, une histoire de Russes exilés en France. Et puisque Masha elle-même vient de l'éternelle Russie, commençons par écouter la belle voix du Tsarevitch.
Mädel, holiges Mädel, wie hast du das gemacht, dass mir das Herz so lacht, wie ich es nie gedacht.
Liebster, sage mir, Liebster, was ist mit mir geschehen? Kannst du nicht recht verstehen, doch bin ich so wunderschön.
Wein, so wunderbar verrückt, kann man doch nur vor Liebe sein.
Doch den ganz küssen ab, das ist ein schöner Brauch.
Herz, liebes Mädel, ich üb's mit dir nur ganz allein.
Kusmich, il ne pense qu'à ça, embrasser sa bien-aimée, le Tsarevitch, dans cette opérette de Franz Lehár, composée en 1925 et ici interprétée par deux interprètes de très haut vol, c'était Nikolaï Gedda et Rita Streich. Et puis, avant de retrouver mon invité, Masha Merrill, je voudrais aussi donner un petit coup de chapeau à un grand accordéoniste dont on m'a annoncé la disparition voici quelques jours. Décidément, c'est une série parce que tout récemment, c'était Louis Corchia. Et là, il s'agit, je l'avais reçu plusieurs fois, de monsieur Armand Lassagne.
We'll be right back.
Le Tourny par Armand Lassagne. C'était vraiment un des derniers grands accordéonistes de la belle tradition Musette, celle de Viseur, Privat et les autres. Je l'avais reçu d'ailleurs plusieurs fois dans cette émission. Il n'était pas très bavard, mais il avait vraiment vécu une vie d'accordéoniste, commencé en banlieue parisienne, passé par les bals et puis les conservatoires aussi, parce qu'il fallait s'adapter à l'air du temps. C'était un grand musicien qui vient de nous quitter, donc monsieur Armand Lassagne.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps maintenant de retrouver mon invitée. Elle a publié, voici quelques mois, un nouveau livre, un roman intitulé Vania Vassia et la fille de Vassia aux éditions Liana Lévy. Et puis en ce moment, elle est à l'affiche du Poche à Montparnasse dans le spectacle Sorcière sur des textes de Marguerite Duras et des musiques de Michel Legrand, qu'on évoquera aussi bien sûr puisqu'ils ont vécu tous deux jusqu'à la disparition de Michel en 2019. Un merveilleux roman d'amour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Macha Meryl. Chers auditeurs, ce que c'est que ce merveilleux concerto pour piano que j'ai découvert, je dois dire, grâce à Macha Meryl et à son spectacle. Ça s'appelle Love Letters. C'est une musique de scène de Michel Legrand qui date de 1992 et qu'il jouait lui-même au piano. Alors vraiment, bonjour Macha Meryl et merci.
Bonjour Benoît.
Merci de m'avoir fait découvrir cette lettre d'amour.
Alors avant de parler de nous ou d'autre chose, je voudrais parler de vous.
Ah bon ?
Et j'ai une petite love letter pour vous.
Oh ben
rappelez-vous
ça, c'est gentil,
que nous devions nous voir pendant le confinement.
Oui.
C'était le jour de votre anniversaire.
Oui.
On peut dire l'âge.
C'était
60.
Mes 60 ans.
C'est une date importante. Et je vous ai apporté un petit cadeau que je devais vous donner à l'époque. Ce sont les crayons avec lesquels Michel Legrand écrivait sa musique. Ça vient de Los Angeles. Il les commandait spécialement. Et c'est des pointes très très fines qu'il écrivait avec des pattes de mouche dans toutes les partitions. Il a toujours fait toutes ses partitions à la main. Et donc, c'est un petit peu
alors
de Michel Legrand que
je
vous offre.
Très, très touché.
Il vous faudra un taille-crayon électrique pour ça, qu'il avait. Il en avait partout, dans toutes les... Et c'est très, très pointu qu'il faut les tailler pour pouvoir écrire des notes et peut-être aussi autre chose. Voilà.
Merci, parce que tout ça me rappelle évidemment tous ces moments qu'on a passés à ce micro avec Michel, bien sûr, à évoquer sa vie.
Il avait fait une émission formidable avec vous et c'est merveilleux, c'était avec vous qu'il aimait le plus parler. Parce qu'il savait que vous aviez cet éclectisme qui le caractérise, c'est-à-dire de mettre toutes les musiques.
L'accordéon, l'opérette,
voilà,
et le concerto.
Tout est bon dans la musique. Voilà.
Merci beaucoup, Macha Meryl. Alors, c'est vrai que oui, on avait rendez-vous au printemps, juste avant que tout se dérègle. Et puis, nous nous retrouvons heureusement à l'automne. Et du coup, votre actualité s'est enrichie parce qu'au printemps, c'était pour votre roman dont on va parler. Mm-hmm. Et maintenant, c'est aussi pour ce spectacle que vous donnez en ce moment à Paris, dans des circonstances qui sont toujours pas très faciles, j'imagine.
Ah, c'est pas commode, non. Mais ce spectacle, il m'est tombé dessus. C'est très curieux. Je devais faire un autre de Marguerite Duras. Et puis, mon ami Alain Vircandelet, qui est un grand connaisseur et expert de l'œuvre de Marguerite Duras. En ce moment, d'ailleurs, il y a les journées de Marguerite Duras à Trouville. Ouais. Et on donnait à chaque année le prix Marguerite Duras à Trouville. Et cette année, je ne peux pas y être parce que je suis en scène.
En scène tous les jours à 19h.
Tous les jours à 19h. Et évidemment, je recommande à tout le monde de venir quand même parce que même si nous respectons strictement les normes sanitaires, une place entre chaque spectateur. Et alors, ce spectacle, il est né presque que Michel me l'a dicté. Il voulait que je fasse quelque chose avec des musiques classiques que peu de gens connaissent de lui. Et c'est avec le metteur en scène que j'ai choisi pour ça. Il s'appelle Stéphane Druet-Toukaïev parce qu'il est aussi un peu russe comme moi. Et il a fait les choix des musiques un peu
donc
aussi.
Des musiques entièrement de Michel Legrand. Hein.
Tout le spectacle. De Michel Legrand du début jusqu'à la fin. Mais... Et ce sont surtout les concertos. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, Michel s'orientait vers la musique classique. Il voulait absolument qu'on lui donne cette place-là qu'il n'a pas eue. Et alors que c'est un immense compositeur.
Et qu'il a fait ses merveilleux disques. D'ailleurs avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Henri de Marquette et quelques autres que vous utilisez dans votre spectacle. Mais juste la question, parce que Michel ait pensé que vous fassiez un spectacle avec ses musiques, c'est une chose. Mais avait-il prévu que ce serait avec Duras? Et est-ce qu'il y a un accord musical, si j'ose dire, entre la parole de Duras et la musique de Legrand?
C'est ça un peu le challenge. C'est que personne n'aurait imaginé cette association, ce mariage entre Duras et Legrand. Et imaginez-vous que ça marche très bien. Parce que Duras, d'abord, c'est une poète. Et elle écrit de la musique avec les mots.
C'est vrai.
Et elle est unique dans ce style-là. Et dans le nouveau roman, moi, je la mets tout à fait en tête parce que c'est une poétesse. Et Michel écrivait de la poésie avec des notes de musique. Ouais. Vous savez, il adorait la poésie. Ouais. Il connaissait tout Aragon par cœur. Il adorait Paul Éluard, Villon. C'était un homme lettré, Michel. Mais particulièrement la poésie. Et donc, cet assemblage, je vous assure que c'est détonnant.
Notamment, par exemple, sur cette musique qu'on vient d'entendre, vous parlez. Il y a une espèce d'un moment de grâce là, au milieu
et du je parle spectacle, de l'écriture, là. Voyez-vous, sur ce texte-là.
Il parle de l'écriture de la page blanche, etc.
Voilà. Et alors, la chose formidable, c'est que moi, j'aime la musique au théâtre. Je pense que le théâtre a des armes qui sont les lumières, les sons et la musique. Et que, comme beaucoup de metteurs en scène ne sont pas mélomanes, ils ont un peu la trouille de mettre des musiques. C'est vrai que la musique prend de la place. Ouais. Hein, une musique, c'est important. Et surtout Michel Legrand, parce que c'est d'une force et d'une... Comment dire, ça vous embarque. Hein. On peut pas être insensible à la musique de Michel Legrand. Et ça, c'est pas mon avis personnel. Hein. Et quand les gens ne reconnaissent pas, en plus... Quelle musique c'est, comme vous, c'était votre cas, mais qui reconnaissent la patte de Michel Legrand, voilà. Moi ça me donne un plaisir immense.
Alors on va reparler d'ailleurs tout à l'heure un peu de ce spectacle que vous donnez en ce moment donc au théâtre Poche Montparnasse, Macha Meryl, mais je voudrais aussi qu'on parle de ce livre pour lequel vous deviez venir au printemps avant que tout ne se déglingue. Ça s'appelle Vania Vassia et la fille de Vassia, on l'aura compris, ça a beaucoup à voir avec la Russie.
Oh.
Un autre père de la liturgie orthodoxe par les grandes voix bulgares. Quelle belle musique, Macha Meryl.
Et la musique est pleine de spiritualité. Je suis allée hier aux obsèques de Michael Lonsdale et j'étais très gênée par les chants catholique.
Ah oui,
parce que franchement,
c'est, on a beau c'est avoir peu, la sympathie on a l'impression pour qu'on est à l'école. Vatican II, ça, oui. C'est pas terrible musicalement.
Alors que voulez-vous, quand on entend une musique comme ça, on a automatiquement la foi. C'est vrai, très naturel.
C'est vrai. Alors vous nous plongez, je voudrais qu'on s'y arrête un moment parce que c'est un peu en parallèle avec votre propre existence dans ce roman, dans ce monde des Russes exilés en France, dans une œuvre d'imagination mais qui au fond rappelle un petit peu par certains aspects celle de votre famille, sauf que là bon, sont des Cosaques hein, voilà, dans votre roman et qui vivent, forment une espèce de communauté extrêmement fermée comme une espèce de morceau de Russie implanté en France. Vous avez connu des gens comme
alors
ça,
j'en ai connu, c'est pour ça que je me suis intéressée à les faire découvrir, ouais. Parce que peu de gens savent qu'il y avait des communautés partout en France.
Ah oui,
il y en avait en Ardèche, il y en avait dans les Alpes-Maritimes, au Jura, dans le Jura, et c'était
ouais.
Des gens qui, contrairement à nous, parce que quand même il y avait d'autres types d'émigrés qui étaient plus cosmopolites, polyglottes,
ce qui était le cas de votre famille d'ailleurs.
C'est ça.
Voilà, c'est ça, oui.
Mon père avait dit il y en a pour 100 ans, et ouais. Il pensait que voilà, il fallait que nous soyons françaises. Ils se sont naturalisés français avant ma naissance, moi et mes sœurs. Ouais. Donc moi, je suis française, je suis née de parents français. Mais ceux-là, ces Cosaques, ils vivaient entre eux encore dans le rite tsariste et orthodoxe.
Voilà.
Ils parlaient russe, ils mangeaient russe, ils chantaient russe, ils vivaient russe. Et leurs enfants étaient déchirés entre l'école communale française et ses traditions. C'est mon héroïne, elle est issue de ça. Alors, c'est
la fille de Vassia, merveilleux voilà. Personnage,
qui
va réussir, elle, complètement son intégration.
Ce qu'on doit se savoir, c'est que eux, ils espéraient retourner en Russie. Ils étaient assis sur leurs valises et ils pensaient que ça finirait le communisme, que la Russie ne s'adapterait jamais au communisme. C'est en quoi ils ne se sont pas tout à fait trompés, puisque vous voyez, ça a duré 100 ans, effectivement. Mais en attendant, quand Hitler est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont espéré que Hitler les débarrasserait
c'est
du
ça, bolchevisme. Alors on voit justement de ces déchirements, notamment avec le personnage de Vassia, qui va finir par combattre avec les Allemands par haine du communisme.
Et il y en a eu beaucoup, vous savez. D'abord, il y a eu une armée entière, l'armée Vlassov, là, il n'y avait pas que des Cosaques, puis il y avait des Cosaques qui sont allés dans les Balkans et qui... vraiment, ont un peu fait une croix sur le fait qu'ils allaient tuer des Russes, parce que contre l'armée rouge, c'était quand même ça, au bout du compte. Mais leur croyance était tellement forte, et le sens de l'honneur chevillé au corps. Alors, il faut vous préciser, les Cosaques, c'est pas une ethnie, c'est un corps d'armée, c'est un régiment. Il y a une école très célèbre qui existe encore, à Novotcherkassk, sur le Don, où c'est un peu comme les Marines ou les, je sais pas quoi, la Légion étrangère.
Ouais.
C'est l'élite de l'armée. Ouais. Napoléon avait dit, donnez-moi un bataillon de Cosaques et je pourrai vaincre l'Europe et même le monde. Alors, les Cosaques, ils gardent ça en tête. Pour eux, ils sont l'excellence de la Russie.
Et vous faites revivre ça très très bien avec un... On sent un plaisir de romancière aussi. Hein,
je pense que je n'ai pas loupé mon truc là. Parce que je me suis attelée au genre, vous savez.
C'était quoi? C'était tous les matins, pendant tant d'heures,
alors,
etc.
Vous savez, la jeunesse de ce livre, elle est presque aussi belle que le livre lui-même. C'est Michel qui me tannait.
Ah bah, toujours
et
qui
me
Michel
disait,
Legrand.
Alors. Il me disait toutes les semaines, alors tu écris? Tu as trouvé ton sujet? Tu sais ce que tu vas écrire? Et comme j'étais très absorbée par la vie matérielle avec lui, d'abord la gestion de cet incroyable foisonnement de besoins matériels, physiques et aussi de concerts, donc je n'écrivais pas. Et il me disait, mais non, il faut que tu écrives, qu'est-ce que tu attends? Et puis, un soir, quand il est rentré d'un concert à la Philharmonie, je voyais bien qu'il déclinait, je voyais bien que sa santé fléchissait. Tout d'un coup, j'ai eu cette idée. L'idée d'écrire sur, non pas moi-même, mais une communauté de ces émigrés. Et si vous voulez, c'est un peu un hommage, non seulement à l'émigration, qui donne des personnages et des sujets qui quand même émaillent la France de variétés, de personnages formidables, et puis aussi le parcours des femmes, parce que mon héroïne, elle est dans le siècle où c'est l'émancipation qui a régné. C'est-à-dire, si on doit déterminer incarne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce siècle, c'est surtout l'émancipation des femmes.
Alors, pour de façon un petit peu amusante, évoquer la façon dont les Français, avec certains clichés, regardaient justement tous ces gens venus de l'Est, tous ces Slaves, j'ai trouvé cette petite chanson amusante d'Andrex qui s'intitule « Le charme slave
». Son nom se termine en ska. À moins que ce ne soit ton ski, Il buvait de la vodka dans une balle à Laïka et foronnait de l'Ilesca en disant que c'était exquis. Le jour où elle le rencontra, il lui baisa la main trois fois. Puis de sa belle voix grave, il récita les vers graves dans une traduction moldave. C'est alors qu'elle succomba. Il avait le charme slave et elle est devenue l'esclave, l'esclave de ce charme slave. Sex Appeal Up et Van Popsker. Elle s'écria, je t'appartiens, tous mes millions seront les tiens. Il répondit, Nietzsche vaut, des millions c'est beaucoup trop, mais si vous avez 1000 francs, prêtez-moi donc un instant. Ce tendre amour dura 3 mois, jusqu'au jour où elle le trouva, enroulé nu comme un ver, autour d'une femme aux yeux verts. Elle sortit son revolver en criant, oh, Chichurnia. Il avait le charme slave et elle est devenue l'esclave, l'esclave de ce charme slave. Sex Appeal Up et Van Popsker. Il lui cria sans se retourner, non mais des fois, t'es pas cinglé? Bah tu t'arrêtes de gueuler et me laisser travailler. Sinon je te file une grande baffe, t'es prévenu, alors fais gaffe. Faudrait pas me prendre pour un cave, parce que j'ai le charme slave. Mon vrai nom c'est Fleur de Nave, et tu peux m'appeler Octave. Va m'attendre sur le palier, tu viendras quand je te sonnerai. Et elle est restée l'esclave, l'esclave de ce charme slave, l'esclave de la voix suave du bel Octave dit Fleur de Neve. Ta-ta-ta-ti, ta-ti-ta-ti-ta-ti, niet.
Andrex en 1945, sur des paroles de Françoise Giroud, ah hein, ça vous a surpris.
Déjà?
Macha Meryl, voilà, qui écrivait des chansons à l'époque, et dont ce charme slave. Vous nous avez dit, Macha Meryl, que vous étiez française, née française, mais vous vous sentez slave aussi?
Eh oui, c'est-à-dire que ça progresse en plus. C'est-à-dire qu'en vieillissant, je le revendique, mais d'une façon pas du tout comme cette vision mythique qui est un peu ancrée en France, hein, que les Slaves sont comme ça, un peu
langoureux,
dépensiers, fantasques,
excessifs
et surtout pas trop fiables. Alors que je pense le contraire. Je pense que ceux qui ont vécu dans cette double culture et cette double identité ont des richesses et ont surtout besoin d'être encore plus sérieux que les autres, encore plus créatif que
vous
les
avez d'ailleurs parrainé, hein, il y a 2-3 ans, un festival de cinéma russe.
Et je continue. Et
vous continuez.
Mars de l'année prochaine, voilà. Si tout va bien avec cette Covid insupportable. Mais nous avons eu beaucoup de succès parce que nous faisons les films de répertoire du grand cinéma russe, hein, Konchalovsky, Mikhalkov, Pavel Lungin et tout le monde. Et les nouveaux. Il y a un nouveau cinéma excellent qui apparaît en ce moment avec Zviagintsev, avec Serebrennikov. Et donc, voilà, on remet un peu au goût du jour la slavitude.
Votre
cinéma.
Vrai nom hein, de naissance.
Je m'appelle Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina.
Voilà.
Et si vous voulez mon
titre. Vous êtes une très grande famille.
Je suis princesse Maria Magdalena. Voilà.
Et votre famille russe, elle a vu ça comment quand vous avez décidé d'aller faire du théâtre avec Charles Dullin, etc.
Ah oui, ça, je suis la seule canard sauvage comme ça qui s'est introduit dans la famille. Mais vous savez, en Russie, les artistes étaient considérés comme des dieux vivants. Et encore maintenant, c'est-à-dire que les princes pouvaient épouser une danseuse ou une chanteuse. Dans l'aristocratie française,
ça ne se faisait pas, bien sûr.
Et donc, il y avait comme
ils les entretenaient, mais en secret.
Voilà. Exactement. Tandis que vraiment, les danseuses, surtout, étaient considérées comme des reines, et on pouvait les épouser.
Un petit épisode aussi de vos tout débuts. Bon, Charles Dullin, je ne sais pas si c'est un personnage qui vous a marqué, mais en tout cas, vous l'avez.
Alors, je l'ai pas connu parce qu'il était mort déjà. Hein. C'est le TMP.
Enfin, son cours, je veux dire.
Le cours s'appelait Dullin. en hommage à Charles Dullin, mais c'était Jean Villard, c'était l'école du TNP. Et alors, déjà à l'époque, il y avait un clivage. Il y avait la Comédie Française, alors c'était pour nous les ringards bourgeois, et puis il y avait le nouveau théâtre, celui du TNP, avec Gérard Philippe, avec George Wilson, avec évidemment Jeanne Moreau, Maria Cazares. Et nous avons, les élèves de ce cours, on était quand même plutôt à gauche, vous voyez.
Il y avait comme une espèce de... Ça vous est resté.
Et ça m'est resté, mais et ça restera toujours. Parce que je ne vois pas comment on peut être de droite, excusez-moi. Maintenant, c'est un peu confus, mais enfin quand même.
Alors ça, c'était votre formation, le cours Charles Dullin, effectivement, en France. Et puis, il y a tout de suite cette escapade à New York, qui arrive assez rapidement, après vos débuts quand même ici. Mais et là, vous avez fréquenté aussi une société assez extraordinaire, avec notamment Richard Avedon et des gens, le peintre de Koenig, etc.
J'ai fait des photos pour Harper's Bazaar à Paris avec Avedon, et qui m'a dit, voulez-vous venir à passer un an à New York pour m'aider à faire le livre Observations, qui est un livre de portraits. J'ai tout de suite accepté, évidemment. Un peu en cachette, j'étais mineure, parce qu'à l'époque, on était majeur à 21 ans. Je devais avoir 18 ans. Et en cachette de ma mère, j'ai fait un faux qui m'autorisait à prendre ce visa pour les États-Unis. Et vous voyez, toute ma vie, j'ai osé. J'ai fait des choses qui n'étaient pas tout à fait permises. Et je pense que c'est ça, la construction d'une personnalité. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, je n'ai pas tellement aimé ni l'Amérique, ni l'Acte Studio où je me suis inscrite.
Même New York, ça vous... Ça...
Ah ben New York, c'était formidable. C'était l'époque d'Andy Warhol.
Vous avez tous croisé, connu.
Tous les grands artistes, c'était vraiment le début de cette explosion de la peinture, surtout. Mais je suis revenue en courant quand il y avait la Nouvelle Vague en France. Parce que la Nouvelle Vague... C'était vraiment un événement. Oui. C'est-à-dire qu'on a révolutionné le cinéma. Il faut bien se rappeler de ça. Tout le cinéma mondial a changé à cause de la Nouvelle Vague.
Vous aviez quand même, entre-temps, signé un contrat, participé à une série télé, etc.
Alors,
aux États-Unis.
Oui, j'ai tourné avec Sam Peckinpah, avec Lee Marvin. Et puis, la Paramount m'avait signé un contrat, mais je n'ai pas voulu continuer. Parce que le premier film, c'était avec Dean Martin. Ça s'appelait Who's Been Sleeping in My Bed. Ça veut dire, c'est Blanche-Neige qui dit au nain qui a dormi dans mon lit. Et donc, moi, j'étais une de ces naines autour de Dean Martin. Et il fallait être française, c'est-à-dire que j'avais tout le temps une cuillère en bois à la main avec un morceau de quiche Lorraine ou de quelque chose à offrir à ce soupirant. Parce que l'image de la française, c'était avant tout la gastronomie, et l'élégance. Et donc, j'étais habillée comme Jackie Kennedy, dans les mêmes couleurs que Jackie Kennedy. J'ai pas supporté ça une seconde, évidemment. Et je suis revenue en vitesse.
Ah, tiens, restons quand même une minute à New York avec la musique de George Gershwin.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Oh, Jonah, he lived in the whale. Oh, Jonah, he lived in the whale. For he made his home in that fish's abdomen. Oh, Jonah, he lived in the whale. Wadu,
wadu,
zimbambulu,
zimbambulu,
ularwada,
ularwada,
kariwa,
kariwa,
yeah. It ain't necessarily so. They tell all you children the devil's a villain, but ain't necessarily so. To get into heaven, no snap or a seven, live clean, no harm, no fault. Oh, takes that gospel whenever it's possible. But with a grain of salt, Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal giving? So no man watch 900 years. I'm preaching this sermon to show that ain't essa,
un enregistrement historique, hein, d'avant la guerre, de ce Porgy and Bess de Gershwin par l'orchestre de Leo Reisman avec Edward Matthews qui chantait. Vous aimez cette œuvre,
Je vous ai demandé ce morceau parce que c'était l'opéra préféré de Michel Legrand. Il considérait que c'était le chef-d'œuvre absolu, ouais, probablement parce qu'il y avait déjà la naissance du jazz et qu'il y avait donc ce mélange, n'est-ce pas,
du jazz et du classique.
Ouais. Et puis, vous savez, moi, mes propres goûts musicaux ont changé, ont évolué avec lui. Il m'a mis le doigt sur les fausses musiques, les faux monnayeurs, ce qu'il appelait, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas vraiment des créateurs. Et c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des créateurs véritables. Et lui, il était très énervé, vous rappelez de son tempérament, ouais, c'est-à-dire ça l'irritait de tous les gens qui imitent un autre.
Bien sûr.
Et ou qui ne sont pas cette... Chris Marker lui avait dit, un jour où il était un peu déprimé, il lui a dit, tu sais, sache que ce que tu fais n'existait pas avant. Et ça l'a réconcilié avec son attitude vis-à-vis de la musique, c'est-à-dire de oser des choses nouvelles, des mariages nouveaux. Et il est vraiment celui qui a le plus mélangé les genres. Il considérait par exemple qu'une grande chanson, c'était aussi important qu'un opéra. Je crois qu'il vous l'a
dit. C'est pour ça qu'on en parle ici avec tant de bonheur avec lui. Vous nous disiez, Macha Merrill, donc, que vous êtes revenu en France parce que c'était aussi la nouvelle vague qui a joué un rôle si important. Néanmoins, avant même de partir aux États-Unis, je crois que vous aviez commencé, alors c'est pas du tout la nouvelle vague, mais votre premier rôle important, c'était avec Gérard Houry.
Absolument. Je remplaçais Brigitte Bardot, imaginez-vous. Ah oui. C'est là que mon nom est né, parce que je m'appelais Gagarine et mon premier producteur...
Vous appelez Gagarine comme Youri, et dans certaines vieilles coupures de presse, on dit que vous êtes cousin.
Mais pas du tout.
Dans d'autres, pas du tout.
Il n'était pas encore allé dans l'espace. Et donc, à ce moment-là, c'était Deutschmeister qui était le producteur. Il m'a dit, il avait un accent coupé au couteau. Il m'a dit, mais cette nom n'est pas française. Alors, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce qu'il faut? Il me dit, il faut inventer. Et à ce moment-là, j'aimais beaucoup une chanteuse de jazz dont je connais tout le répertoire, qui s'appelle Helen Merrill.
Et oui, bien sûr.
Et alors, avec modestie, j'ai enlevé un R et un L et c'est devenu mon nom. Je regrette pas parce que j'ai fait un peu, si vous voulez, ma carrière sous un anonymat. Et même, bien entendu, tout le monde sait que je suis russe d'origine parce que Bouvard, quand je lui disais j'ai 1000 ans, parce que mon ancêtre qui a fondé la dynastie Gagarine, il me disait ça ne se voit pas. T'es assez courtois avec moi, Philippe Bouvard, que je salue parce que...
Ben oui, je suis sûr qu'il nous écoute,
il nous écoute
souvent ici aussi.
Oui.
Donc voilà, en tout cas, vous aussi, finalement, vous êtes éclectique parce que de Houry à Godard, il y a quand même un grand écart.
Mais vous savez, on ne choisit pas tout le temps. Hein.
Non, bien sûr.
La seule façon de choisir, c'est de dire non, c'est-à-dire de refuser. Et ça, c'est... Parce que moi, je ne me considère pas comme une actrice dans la corporation des acteurs. Je suis une femme qui s'exprime de façon diverse, soit comme actrice, soit comme écrivain, soit comme femme, soit comme cuisinière, soit comme...
La cuisine, très important. Hein.
Très important, parce que c'est l'absorption d'une culture ou de plusieurs cultures. Et quelle chance d'être femme et de nourrir les gens autour de soi. C'est-à-dire, je fabrique vos muscles et vos nerfs et votre esprit à travers la cuisine. Et donc, je n'ai jamais voulu quitter ce pouvoir-là, même au moment du féminisme le plus hardi. Je n'ai pas voulu abandonner mes casseroles.
Voilà. En tout cas, Buñuel, ça vous a marqué, le tournage de Belle de Jour?
Alors, je suis arrivée
le
à
grand
Buñuel d'une façon, par la bande, parce que j'avais des grands amis photographes mexicains qui m'ont présenté à lui. Et c'est comme ça qu'il m'a choisi. C'était pas du tout avec un casting et tout ça. Et alors, nous étions assez amis. Il me respectait parce qu'il pensait que j'étais une femme un peu à part.
Ah ouais.
Et alors, je vous raconte une anecdote. Un jour, il nous donne un dialogue dans Belle de Jour qui parlait d'asphodèle et de je ne sais pas quoi. Alors, Catherine Deneuve me dit, écoute, t'es copine avec Don Luis, va lui demander qu'est-ce que ça veut dire.
On disait Don Luis.
Ah oui, Don Luis. Alors, je vais le voir. C'est qu'il était sourd, mais pas pour tout le monde, hein, parce que quand on disait un truc qui lui plaisait pas, il l'entendait au bout de la pièce. Alors, je frappe à la porte de sa loge et je lui demande, Don Luis, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Et il me répond, cet dialogue est cryptique. comme Salvador Dali, vous savez. Et c'était en effet, j'ai découvert par la suite, c'était kabbalistique. Ah c'était oui. du langage des...
Vraiment
ah parce oui. qu'il était franc-mac, et donc il avait mis ça en sachant que personne n'y comprendrait rien, mais que ça s'est dévoilé par la suite.
Alors parmi tous les films que vous avez fait à l'époque, il y en a un autre dans lequel figure une chanson célèbre, et on peut dire que vous êtes à l'origine de cette chanson célèbre. C'est la bande originale du film L'Horizon en 1967 et Elisa, que tout le monde connaît avec la voix de Gainsbourg, qui a fait la musique du film, c'est vous.
Voilà, alors ça me fait plaisir que vous rendiez justice à cette musique parce qu'il l'avait écrite pour moi, pour le film. Oui. Le personnage s'appelle Elisa.
Ah, ça a été repris d'ailleurs dans un autre film qui s'appelle Elisa de Jacques Becker plus tard.
Ah, ça,
Ils ont repris la musique, mais en fait c'est L'Horizon.
Hein, alors 1967. C'est quand même une petite trahison parce qu'après ça il a dénucléé du film et il en a fait une chanson. Mais enfin bon, c'est permis, hein, parce que. Mais personne ne sait que l'origine est ce film de Jacques Rouffio.
Et Elisa, c'était donc votre personnage.
Tout à fait, avec Jacques Perrin. Et ça se passe, c'était un livre de Georges Conchon qui se passe pendant la guerre de 14, où on disait que les femmes commençaient déjà à être très, très importantes parce qu'elles essayent de faire déserter son compagnon. Et c'était les femmes qui travaillaient dans les usines. Vous savez, les femmes ont fait l'histoire beaucoup plus qu'on le sait, hein, parce que les grandes révolutions, c'est toujours par les femmes que ça passe.
Alors, dans ces années de cinéma, il y a la France et puis il y a tout de suite après l'Italie. Et c'est d'ailleurs un endroit où justement votre côté engagé, y compris bien que vous soyez d'origine aristocratique russe, du côté tout près des communistes, c'était beaucoup vos années italiennes.
Hein. Mais vous savez tout, vous êtes incroyable. Ma vie est un livre pour vous. Et effectivement, j'ai été très attirée par l'Italie, bien sûr, parce que j'ai rencontré
d'abord,
mon mari.
Vous étiez amoureuse d'un Italien, voilà.
Qui était un grand séducteur et vraiment un producteur unique parce qu'il était dans la foulée des grands documentaristes, vous savez. Il était très ami de Yoris Ivens, de Chris Marker. Et j'ai beaucoup aimé cet art-là, c'est l'art du documentaire parce que c'est la nouvelle vague s'en est beaucoup inspirée. Ouais. Et alors, j'étais folle de l'Italie. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance. D'abord, tous les intellectuels étaient communistes.
Ah oui, c'est l'époque.
Et j'ai
vraiment
rencontré Moravia. Et Pasolini, dont d'ailleurs nous avons produit un film qui s'appelle Porcherie, Porchile, et c'était ma société de production
voilà,
qui a co-produit.
Parce qu'entre temps, vous aviez fondé Macha Productions, c'est ça ?
Alors c'était avec le film de Guy Gilles, Au pan coupé, que nous avons créé.
On va en parler dans un instant.
Que j'ai créé cette société. Et vous savez, c'était après la Nouvelle Vague. On mettait tous la main à la pâte, c'est-à-dire que moi j'ai plus trimballé de bobines dans les cinémathèques que de m'occuper de mes coiffures et de mes maquillages. Et donc j'ai beaucoup aimé cette époque-là, un peu artisanale, très créative, et je pense qu'elle va revenir cette époque. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés, et avec l'envahissement des images de Netflix, je pense qu'il y a un cinéma qui va renaître, je l'espère de toutes mes forces, qui sera un petit peu plus personnel, où les cinéastes feront leurs films de A à Z sans être victimes de l'argent, des financements.
Mais monter une société de production, c'est un peu comme acheter un théâtre, c'est le moyen le plus sûr de se ruiner, non ?
Absolument. D'ailleurs, je l'ai bouclé à un moment donné parce que j'en avais marre. Parce que, vous comprenez, j'étais entre le marteau et l'enclume. Je ne déplaisais aux metteurs en scène parce que j'étais pas assez puissante et je déplaisais aux distributeurs parce que je leur donnais pas des films populaires. Alors, c'est très inconfortable, je vous l'avoue. Mais je suis heureuse d'avoir fait cette expérience-là, quand même.
Et cette expérience qui vous a donc rapproché d'un jeune cinéaste oublié parce qu'il est mort du sida il y a fort longtemps déjà, mais que vous aimiez beaucoup, que vous avez beaucoup soutenu, qui s'appelait Guy Gilles.
Alors, c'est un petit génie, ce Guy Gilles. C'est-à-dire, il est méconnu parce qu'il faisait un cinéma très personnel. Il est né trop tôt. Ouais. S'il était maintenant, cette problématique de l'homosexualité et des drames de l'homosexualité aurait paru tout à fait acceptable. Mais il faisait donc des films un peu... mythologique, n'est-ce pas ? Il était obligé de... un peu comme Cocteau, un peu comme ces grands cinéastes qui ne peuvent pas tout dire, comme en Russie, quand il y avait la censure. Et Mais c'est un film très poétique. Et d'ailleurs, ce film au pan coupé, Marguerite Duras en a dit que c'était de la plus belle histoire d'amour qu'elle avait jamais vue au cinéma. Et elle-même s'en est un petit peu inspirée. Alors lui, il filmait les femmes. Et il me disait, je veux te filmer. Il ne me disait pas quel rôle ça sera, quelle histoire on raconte.
Ah oui,
et ça,
vous.
C'est-à-dire, c'est le cinéma. Et je suis assez sensible à ça. Et je suis en ce moment au théâtre. J'ai un peu la même expérience avec Stéphane Druet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. Mais on va faire avec nos forces, avec mon visage, avec ma voix et avec les armes du théâtre, qui sont les lumières, les sons et les musiques. Elles sont de Michel Legrand, donc elles sont fortiches.
Alors, on va d'ailleurs dans un instant revenir à ce spectacle, Macha Meryl, mais j'ai regardé quand même dans la discothèque de Radio France, où vous savez vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que Macha Meryl a chanté, enregistré des disques, etc. J'ai trouvé une chanson, justement,
oui.
Et qui s'appelle Le Crime d'amour.
Oh, chic,
c'est le nom du film de Guy Gilles, précisément, dans
voilà,
lequel
c'est un
vous
autre
avez
film que j'ai fait avec
interprété
Guy Gilles.
Cette chanson. Je vous rappelez l'enregistrement?
Absolument, j'étais deux sœurs jumelles là-dedans. Et c'est Jean Vienner qui a écrit cette chanson.
Et voilà.
Très difficile à chanter. Ouais. J'espère que vous avez la bonne version, parce qu'il y en a une où je chante faux et une où je chante mieux. Je ne sais pas laquelle
alors,
vous avez.
Alors j'en ai qu'une.
Allons voir.
Est-ce qu'on est bien tombé? Ça va être la surprise.
Moi qui t'aimais tant, toi l'enfant, mon amant. Miel de mes 20 ans, mon amant, toi l'enfant, mon enfant. Ta mort fut discrète, toi l'enfant, mon amant. Dans la chambre déserte, hôtel de l'avenue, qui t'aimais tant, toi l'enfant, mon amant. Miel de mes 20 ans, mon amant, toi l'enfant, mon enfant. Petite pilule rouge sur la moquette noire, de toi plus rien ne bouge dans la tiédeur du soir. Bleus étaient tes yeux, ciel devint ton nom, cœur tendre, cœur secret, j'écris ta chanson. Qui t'aimais tant, toi l'enfant, mon enfant. Miel de mes 20 ans, moi qui t'aimais tant, toi qui m'aimais tant, moi 20 ans, toi 20 ans.
Macha Meryl, c'était la bonne version?
C'est la bonne version, c'est pas mal, dites donc. C'est-à-dire Jean Vienner, c'est lui qui m'accompagne.
Alors, Jean Vienner, c'est lui qui est là au piano?
Mais oui.
Et alors, vous l'aviez rencontré à ce moment-là?
C'est Guy Gilles qui a voulu absolument qu'il fasse la musique de son film, parce que sinon c'était Jean-Pierre Stora, qui était son cousin, qui faisait les musiques de Guy Gilles.
Oui.
Mais là, c'était comme un morceau intemporel, comme ça du passé. Ouais. Ça m'étonne pas que ça vous plaise et que vous aimiez Jean Vienner.
C'était déjà un vieux monsieur.
Très âgé, ouais. Mais avec un œil d'enfant, un œil pur. Et puis, c'est drôle parce que c'est horriblement difficile à chanter ça. Ça ressemble beaucoup à certaines chansons de Michel Legrand, où il y avait plein de demi-tons et des passages d'une strophe à l'autre complètement différentes. Je suis très heureuse que vous passiez cette musique. Ça me fait plaisir.
Alors justement, vous nous parliez du rapprochement, de l'intérêt, en tout cas de Duras pour Guy Gilles. Duras, j'imagine que vous l'aimez depuis longtemps, sinon vous n'auriez pas fait un spectacle sur elle. Mais cette idée, justement, de la sorcière, au fond, c'est aussi cette idée de la voix féminine qui est différente de la voix masculine, parce que vous croyez à la différence des sexes,
oui,
contrairement à d'autres.
Je pense que ce n'est pas un obstacle, la différence. Au contraire, c'est un enrichissement. Donc moi, je suis pas tellement avec les féministes d'aujourd'hui qui parlent tout le temps de droit. Je crois qu'il faudrait parler plutôt de cohabitation, de mélange. Alors, Marguerite Duras, je l'ai connue, vous savez, à plusieurs reprises.
Elle a incarné cette espèce de voix féminine.
Sa théorie, c'est que les premières féministes, les racines du féminisme, ce sont les sorcières.
Ce sont les sorcières.
Qui se faisaient brûler sur des bouchers parce qu'elles parlaient. Et que donc, leur parole était intolérable. Et qu'elle était très différente de la parole, naturellement, des croisés et du catholicisme très puissante de l'époque. Et c'est pas si faux. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Les féministes américaines ont pris les sorcières comme égérie, en considérant qu'effectivement, c'était le début de la révolte. Elle se faisait brûler sur des bûchers, hein, rappelez-vous, et Jeanne d'Arc comprise. Et puis après, je trouve que tout ce que dit Marguerite est très nuancé. Ce n'est pas revendicateur. Moi, j'en ai marre de mêler les luttes politiques avec cette chose-là qui est beaucoup plus vaste. Et vous savez, comme je vous disais, le siècle est le siècle de l'émancipation, qui a commencé non pas en 68, mais en 66 avec la pilule. Oui. C'est-à-dire que tout a changé. Les relations entre les hommes et les femmes, avec les enfants, à l'école, dans le travail, c'est nous qui avons tout d'un coup donné la couleur du temps. Et je trouve cette théorie de faire remonter ça aux sorcières. Beaucoup des textes de mon spectacle ont été publiés dans une revue qui s'appelait Sorcières et qui a disparu, qui a duré 10 ans, où elles invitaient de grandes femmes écrivains, Marguerite Yourcenar, Chantal Chaouaf, Noël Châtelet. Mais ce qui reste, c'est que il faut pas se battre. Il faut exister, il faut être femme avant tout. Et ça, c'est merveilleux, j'adore ça, moi.
Alors là, vous portez ces textes avec beaucoup de grâce sur la scène, mêlés à ces musiques, et avec un mélange de genres que, je vous avoue, je n'attendais pas chez Duras, parce qu'il y a des choses très drôles. Hein.
Par exemple,
il y a un passage sur la mort d'une mouche, par exemple, qui est tout à fait extraordinaire.
Mais elle était drôle, vous savez, elle faisait la cuisine, elle était très vivante, elle avait un humour un peu pince sans rire à elle. Alors, je pense qu'on lui rend hommage parce que nous avons pris des extraits qui sont très contrastés, de manière à ce qu'il y ait un spectacle. Notre grande trouvaille avec Stéphane Drouet, c'est d'avoir fait du théâtre. Voilà. Je les incarne.
Vous n'aimez pas trop les comédiens qui viennent avec un livre sur la scène et puis qui lisent des grands auteurs.
Pour moi, c'est une escroquerie. Un acteur, c'est fait pour jouer, pour regarder les spectateurs dans les yeux. Alors, je les mets tous dans le même sac, Youkini y compris. Je trouve que c'est un peu facile. Alors, évidemment, quand il lève le nez et qu'il parle lui-même, il est formidable. Mais je n'aime pas cette chose-là d'arriver avec le bouquin. En revanche, ce qui est beau au théâtre, c'est que c'est aussi chorégraphique. Moi, je suis à la fois danseuse, chanteuse, diseuse et quelque part aussi, je joue avec mon corps. C'est ça qui est formidable au théâtre. Voilà. On joue de la tête aux pieds. Je suis pieds nus d'ailleurs et mes pieds jouent beaucoup. Ils jouent aussi sur ces tapis que nous avons un tout petit décor. Vraiment, ça m'intéresse le théâtre. Je pense que c'est une tribune qui est plus efficace que bien des slogans qui circulent dit par les uns et les autres.
Et puis donc, vous l'avez dit, d'un bout à l'autre de ce spectacle, il y a en arrière-plan, ou peut-être même plus qu'en arrière-plan, la présence de notre cher Michel Legrand.
Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi, je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi, ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi, quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, alors, alors, encore, encore une fois. Quand ça balance, grâce à l'horloge, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là,
quand ça balance, quand l'orchestre est avec lui, alors là ça fait du bruit. Quand ça balance, le plafond dans l'homme éclat, dans un grand tonnerre de bois. Ça dégringole du sommet des septièmes ciels, si tout que le jazz est là. Et ça rigole dans son cœur qui prend des ailes, et ça lui cogne dans les doigts.
Bah, bah, doo, 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 da 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 ba 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 da do da ba da ba da yo da yo ba yo ba bibla ha yo ha yo ba ba bibla ha yo ba yo ba 1 2 3 4 et ça va.
Une petite dose de Michel Legrand, hein, ça vous remet en joie.
C'est ça, c'est plein d'énergie. La vitalité même. Alors,
qu'est-ce que c'était que cette énergie qu'il avait de cette façon, cette capacité à produire sans arrêt, jamais s'arrêter de travailler, avoir toujours 1000 projets,
parce
etc.
Parce que pour lui, le monde a commencé quand il a... Il est entré au conservatoire, il n'avait jamais été à l'école, et tout d'un coup, c'était que la musique, sa vie c'était la musique. Excellent chanteur, un génial chanteur.
Mais est-ce qu'il s'est découvert tard comme chanteur finalement?
Mais je pense qu'il a... C'est un type à part, hein. C'est un homme spécial. Vous savez qu'il prenait 12 sucres le matin dans son thé.
Ah bah voilà, c'est pour ça.
Et pour lui, si j'en mettais un de moins, il voyait la différence. C'est-à-dire que je pense qu'il était... il avait un organisme un peu particulier, un peu spécial, qu'il a beaucoup consommé quand même. Non seulement avec la vie de musique, mais aussi avec la vie tout court.
Mais lors de la dernière émission qu'on a faite ensemble, 3 mois avant sa mort, en octobre 2018, sur les vedettes de la scène, il était encore plein de projets. Pourtant, il avait l'air fatigué, sa voix avait un petit peu changé, mais pour lui, il pensait simplement toujours à l'œuvre suivante, d'une certaine façon.
Alors, vous voyez, ça va être ma tâche. Ouais. Je vais les réaliser, tous ces projets. Ouais. Il y en a quelques-uns.
Qui sont restés en...
Qui l'avaient commencé, et dont d'abord un opéra qu'il a écrit, qui s'appelle Les Dévoyés, d'après des textes que j'ai écrits pour les lyrics. Que nous allons faire, j'espère, c'est une création avec un orchestre symphonique. Et puis, des chansons. Il a essayé des thèmes de chansons que j'ai confiés à des grands écrivains. Tout le monde a accepté.
Ah oui, il n'y avait que les, sans paroles,
sans parole,
simplement
faisait,
les mélodies.
On a des enregistrements piano-voix où il fait la.
Oui, d'accord.
Et je pense que le grand truc qui lui plairait, c'est ce festival que je veux créer, c'est-à-dire un prix Michel Legrand. Parce que vous savez, en ce moment, tout le monde me demande des concerts et il y en a partout. Mais dans 10 ans, dans 5 ans, les gens sont oublieux. Ouais. Je veux faire un prix qui serait comme le prix de Luc ou le prix Jean Vigo, c'est-à-dire pour les musiciens de films et pour les spectacles vivants. Il n'aimait pas beaucoup le terme comédie musicale parce qu'il trouvait là-dedans qu'il y avait beaucoup de mauvaise musique, trucs américains, puis c'est un petit peu un système, la comédie musicale. Lui, c'était l'idée de mettre en musique des choses de théâtre.
Il acceptait même d'ailleurs le terme opérette pour certaines de ses œuvres, je me rappelle.
Tout à fait.
Notamment pour le Passe-Muraille.
Parce que ça a été son enfance, il était un grand amateur d'opérette.
On peut rappeler quand même si il a beaucoup été écrit là-dessus, que c'est une histoire, un roman extraordinaire, puisque vous vous êtes connu avec Michel dans le début des années 60, en 64, et puis vous vous êtes éloigné, et puis retrouvé en 2013 et marié en 2014, 5 ans avant sa disparition.
Mais voyez,
vous êtes devenu une espèce de couple un peu mythique dans tous les médias
français.
Mais vous
savez, en 64, nous le savions que nous étions faits l'un pour l'autre.
Ah oui.
Sauf que c'est la vie qui n'a pas voulu. Il était marié, il avait des enfants, et puis voilà. Et il n'était pas question qu'on brise ça. Mais quand on s'est retrouvés, c'était comme une chose naturelle. Et en vérité, je pense qu'il a voulu clore un certain nombre de chapitres de sa vie.
Ouais.
Il a fait le dernier film d'Orson Welles. On a repris Peau d'âne à Marigny.
C'est vrai.
Il a eu ce grand amour avec moi. Et puis aussi, il a tout à coup accepté qu'il ne serait pas toujours éternel. Ouais. Et moi, j'ai accompagné ces derniers moments de sa vie, et ça a été aussi beau que les moments heureux que j'ai vécu avec lui.
On peut toujours se demander comment deux artistes peuvent vivre ensemble, parce qu'on pourrait supposer que chacun est tellement pris par ses projets, sa carrière.
On les a mariés, tout simplement.
Mais en fait, vous, voilà. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, Michel pensait à vos projets, vous pensiez aux siens, d'une certaine
Exactement.
Façon.
Exactement. Et puis, vous savez, c'était dur, hein, parce qu'il avait un caractère un peu éclectique et sauvage, hein, quand même. Mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ce championnat. Vous savez, il était amoureux de l'excellence. Donc, très sévère avec ses musiciens. Quand il entendait une fausse note dans l'orchestre, tout de suite, il arrêtait.
Il était dur en studio, parfois, je crois.
Il y a beaucoup de musiciens qui n'ont pas aimé travailler avec lui parce qu'il voulait que tout le monde soit au top et qu'on soit les meilleurs. Moi, j'aime ça, vous voyez. Je trouve qu'on n'est pas assez stimulé. En ce moment, on pense tout le temps aux faiblesses et on ne pense jamais aux forces. Je trouve qu'il faut être fort.
Peut-être le premier prolongement, justement, de cette œuvre de Michel, qui est paru récemment, hein, c'est ce disque d'Hervé Sélin, grand musicien de jazz, auquel vous êtes associé, puisque vous y chantez encore. Deuxième chanson de Macha Méride, qu'on va entendre tout de suite.
Dans ce festival. Alors, c'est très beau ce qu'il a fait, Hervé Sélin. Ouais. C'est un des pianistes que Michel aimait, qui était un peu son double. Quand il ne pouvait pas jouer, c'était lui qui jouait à sa place. Il a un peu la même façon de jouer le jazz. Il est prof, d'ailleurs, au conservatoire. Il est prof de jazz. Et il a fait des duos avec les grands thèmes de Michel Legrand, avec piano contrebasse, piano violoncelle, c'est Eric de Marquette, piano, trompette avec Egea. Et il m'a demandé.
Des musiciens que Michel aimait tous.
C'était son premier cercle, disons. Oui. Et il m'a demandé de chanter une chanson, ça m'a vraiment fait plaisir et je l'ai fait volontiers.
Voilà, ça s'appelle Celui-là.
Oui. Celui-là qui tenait dans sa main la jeunesse et la gloire et l'amour. Celui-là qui vivait pour demain le combat de chaque jour. Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons. Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil se tacher de sang noir. Celui-là qui n'aurait pas voulu que là-bas d'autres hommes se tuent. Celui-là, parce qu'il avait parlé d'aimer. Celui-là, d'autres mains l'ont tué. Celui-là, celui-là.
Voilà, c'était Macha Méril, musique de Michel Legrand.
C'est un peu un portrait de lui.
Parole d'Eddy Marnay, mais on croyait qu'il parle de Michel Legrand.
Absolument.
Je ne sais pas si c'était voulu.
Alors c'est en vérité le prophète, c'est quand même le Christ, mais ça ressemble beaucoup à cette mission de Michel. Et décidément, je ne savais pas que vous inviteriez Macha Méril chanteuse.
il faut un début à tout. Et dites-moi, Macha Méril, on l'a compris, vous avez beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, d'amour et de goût de la vie jusque dans votre cuisine. En même temps, dans cette époque, entre les épidémies, la planète qui va mal, l'agressivité qui monte, vous devez être un peu découragé. Jour après jour, ça va à contresens de vos propres énergies.
Détrompez-vous, au contraire. Je pense que ce confinement est salutaire. Oui. Parce que tout le monde a découvert une autre vie. C'est-à-dire, avec le confinement, on s'est retrouvé un peu dans les couples, dans les familles, la maison, la lecture, les grands livres, les pavés qu'on n'a jamais lus et que tout d'un coup on peut reprendre. Moi, j'ai relu L'homme de Musil,
L'homme sans qualité,
j'ai relu Tolstoï. C'est-à-dire, je crois qu'on se disait, on a découvert qu'on cavalait un peu tous stupidement et qu'il faudrait peut-être faire moins, peut-être gagner un peu moins d'argent, mais être un peu moins compétitif. Je hais ce mot de la compétition, parce que c'est bien pour le sport peut-être, mais c'est pour ça que j'aime pas trop le sport, voyez, parce qu'il faut toujours gagner, il faut toujours être en tête, il faut être le premier. Non, la vie c'est autre chose. La vie c'est jouir, c'est faire du bien à soi-même. Et donc, je ne suis pas si pessimiste que
Alors,
ça.
Bravo de retourner cette situation pas très drôle en situation positive.
J'y crois sincèrement.
Et puis, ben, on va aller vous voir donc au théâtre Poche-Montparnasse. C'est toujours ouvert. Hein.
Oui, venez, venez.
Ça se passe dans des strictes conditions.
N'ayez pas peur. Et de toute façon, on respecte toutes les normes sanitaires. Ouais. Mais c'est une rareté. Je veux féliciter ici Philippe Tesson, qui est le propriétaire
bien
du théâtre.
Bien sûr, notre
parce
cher
qu'il
Philippe.
Fait des créations. Et ouais. Il nous donne la parole. Voyez, il m'a donné carte blanche pour ce spectacle. Et vraiment, il n'y a que lui qui fait ça à Paris maintenant. Enfin, il est un des rares.
C'est vrai.
Chapeau à lui.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, ma chère
Meryl. Merci, Benoît.
Et j'espère à bientôt.
À très bientôt.
Thank you.
Le final du concerto en sol de Maurice Ravel, encore une œuvre d'ailleurs qu'adorait Michel Legrand et que j'ai choisi pour terminer cet entretien avec Macha Merrill. Là, il s'agissait de l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par Pierre Dervaux, avec au piano Jean Casadesus. Et puis, donc, vous l'avez compris, il est temps pour vous, d'une part, de prendre vos places au théâtre de Poche Montparnasse pour Sorcière, texte de Marguerite Duras. C'est tous les jours à 19h au théâtre Poche Montparnasse à Paris. Et puis, il est temps aussi, si vous aimez lire, de vous plonger dans le roman russe de Macha Merrill. Ça s'intitule Vania, Vassia et la fille de Vassia. Et c'est paru aux éditions Liana Lévy.
Me han contado y perdonar que te increpe de este modo, que la vas de parte en aire, no sé qué va a estar claro, que ha rodado como potranca, que la pechan en el codo, engrupida bien debute por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire, aunque batan que soy bruto y atrasado, que querés, no debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire. Y en vez de batirlo en criollo, te lo baten en francés. Me han contado y este fato que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar, si lo que hacen se puede llamar cantar. Vos que no tenés oídos ni para el arroz con leche, que mandabas la morocha como número atracción, quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, emprenderla los berridos cuando suene el charlestón. Te cambiaron, pobre mina, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron, pobre mía, te engrupieron tontamente, bullanguera mascarita de un mistongo carnaval.
Ah oui, je sais pas pourquoi, après le voyage en Russie, j'avais envie d'aller plus vers l'ouest et vers le sud, en Argentine, avec ce très beau tango intitulé Audacia de Edmundo Rivero, qui s'accompagne à la guitare, un enregistrement de 1950.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis je voudrais vous faire part, avant qu'on se quitte aussi, d'une actualité importante pour tous les amoureux de l'opérette. C'est la reprise de l'opérette Normandie, dont je pense que je vous avais déjà dit beaucoup de bien quand elle avait été, il y a un an et demi déjà, donnée à Compiègne et à Paris à la Nouvelle-Ève. C'est une opérette d'Henri Decoing pour le livret, le grand réalisateur Henri Decoing, et de Paul Misraki pour la musique. Paul Misraki, vous savez, le musicien de « Tout va très bien, Madame la Marquise » et de tous les succès de Reventura. Ils avaient écrit cette opérette qui fut créée à Paris en 1936 au Bouffe Parisien et qui raconte d'une façon très très amusante la première traversée du Normandie, lancée la même année. C'est repris par l'excellente compagnie Les Frivolités Parisiennes et donc vous pouvez voir ce spectacle encore pour quelques représentations. Le 11 octobre, ce sera au Théâtre Municipal du Havre et du 13 au 16 octobre à l'Athénée à Paris. C'est vraiment un spectacle réjouissant. Les Frivolités Parisiennes ont retrouvé les couleurs d'orchestre de l'époque de cette œuvre assez drôle, loufoque, dans laquelle figure un grand tube repris par Reventura et ses collégiens, c'est « Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine ». Et cette chanson prend une résonance un petit peu particulière quand on est en plein dans une épidémie.
Et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit votre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux. que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'Alma. L'autre soir au concert colonne éclata un grand scandale. Il y avait un trombone qui ne semblait pas normal. Le chef d'une voix rageuse lui dit: nous jouons à nos airs et vous vous jouez sans brémeuse. L'autre dit: qu'est-ce que ça peut faire? Vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la bioxine. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'Alma. À la chambre, les honorables, je veux dire les députés, ne sont pas du tout aimables pour ceux de la majorité. Afin de calmer leur rancune, Léon Blum, levant le poing, devrait dire à la tribune: camarades, écoutez bien. Eh bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de retourner en Palestine. Ça vaut mieux que de faire le blum au fond de l'Alma. Je ne connais pas l'orthographe, je suis pas la seule à Paris. Et souvent je fais des gaffes, ça déplaît à mon mari. L'autre jour il me dit: caresse, ça s'écrit avec un C. J'y répondis tout d'une pièce: avec un Q, c'est plus gai. Et ben ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'Alma. On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que ça ne fait pas bien. Cette petite queue qu'on mutile, dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit: allez vite, vous êtes mon affille, hein. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la bioxine. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'Alma.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'Alma.
Voilà, vous connaissez peut-être mieux la version de Ray Ventura et ses collégiens de cette chanson célèbre, mais là c'est la version originale, celle qui figurait donc dans l'opérette Normandie, interprétée par sa créatrice Suzanne D'Ely. Et vous pouvez donc aller applaudir Normandie du 13 au 16 octobre au Théâtre de l'Athénée. Je crois qu'il ne reste pas beaucoup de place, mais enfin ça vaut vraiment la peine. Et puis ben voilà, on va se quitter avec une musique d'un compositeur que j'aime beaucoup, c'est Jean Français. Jean Français qui écrivait en 1976 ses variations sur un thème plaisant pour ensemble avant et piano, avec le compositeur lui-même au piano. Vous verrez, surtout à la fin, c'est assez ébouriffant.
Thank you. Thank you.
Les variations sur un thème plaisant de Jean Français, une composition de 1976, jouée ici par l'ensemble avant de Mainz, de Mayence, sous la direction de Klaus Rainer Schöll, avec le compositeur Jean Français au piano. S'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Morse d'Incan, ainsi que YouTube Diego Aclopes, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un spécial Léo Ferré en compagnie du fils de Léo Ferré, donc Mathieu Ferré, ainsi que du compositeur et arrangeur Jean-Michel Defaille. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.